France Inter. Il est 19h sur France Inter. Et voici le journal. Bonsoir Éric Delvaux.
Bonsoir Charline, bonsoir à tous. Les établissements scolaires de la Somme seront placés demain sous haute surveillance. La préfecture ne minimise pas les menaces terroristes envoyées dans la nuit de vendredi à samedi. Port-au-Prince, soumise à la violence des gangs, la France met en place des vols spéciaux pour faire revenir d'Haïti ses ressortissants les plus vulnérables. La campagne des européennes avec le premier meeting commun de Raphaël Glucksmann avec le PS. Les socialistes voient dans leur candidat le vote utile à gauche. La Pologne qui exige des explications de Moscou depuis qu'un missile de croisière russe a violé ce matin son espace aérien. Au Sénégal, les bureaux de vote sont en train de fermer, 18h sur place. Les deux favoris de la présidentielle se disent confiants dans leur victoire au premier tour. Nous serons en direct à Dakar avec Omar Ouaman. Enfin, la France commence à célébrer les 150 ans du mouvement impressionniste. Eh bien, nous serons au festival Normandie impressionniste. Le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, ce sera plus calme qu'aujourd'hui.
Oui, et ce sera même, on peut déjà le dire, la journée la plus calme de la semaine prochaine avec un temps sec et des éclaircies pour presque tout le monde.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Les établissements scolaires de la Somme seront donc placés demain sous haute surveillance. C'est une réponse aux menaces terroristes qu'ont reçues 6 collèges et lycées dans la nuit de vendredi à samedi sur des espaces numériques de travail. Cette plateforme qui permet les échanges entre les enseignants et les familles. Le texte rédigé en français et en arabe évoque de possibles attaques dans une centaine d'établissements des Hauts-de-France. L'auteur se revendique de l'État islamique. Dès demain, donc, 7h30, la sécurité sera renforcée. Pas question de prendre cette menace à la légère, explique Silver C. Il est le sous-préfet de Montdidier.
Le plus probable, c'est qu'on est confronté au même phénomène qu'il y a eu en Île-de-France ainsi que dans plus de 800 établissements scolaires depuis le mois de septembre l'année dernière dans la France, à savoir des piratages informatiques de menaces qui sont le fait de trolls ou en tout cas de personnes malveillantes. Ce type de fait peut être puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Les investigations sont en cours. Il est clair que tous les établissements seront ouverts et accueilleront les élèves normalement. De notre côté, il nous revient de sécuriser les abords de ces établissements et l'accès des élèves. Ce sont plusieurs dizaines de policiers et gendarmes qui seront déployés, que ce soit les 6 établissements concernés ou un certain nombre d'autres, par mesure de précaution pour éviter toute psychose aux parents d'élèves et aux enfants.
Et j'ajoute qu'après ces menaces terroristes visant plus d'une centaine d'établissements scolaires des Hauts-de-France, plusieurs dizaines de parents d'élèves ont porté plainte. Trop de violence à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, aux mains des gangs qui sèment la terreur. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
La France met donc en place des vols spéciaux pour permettre le retour de ses ressortissants les plus vulnérables.
Oui Eric, ces rapatriements aériens seront organisés par l'armée et le Quai d'Orsay. Depuis plusieurs jours déjà, l'ambassade de France procède au recensement des personnes souhaitant quitter Haïti. Il faut savoir que sur place, il reste encore environ 1500 ressortissants français enregistrés au consulat. 90% d'entre eux résident dans la capitale Port-au-Prince et sont désormais pris au piège car les liaisons aériennes sont interrompues, l'aéroport est fermé, tandis que la frontière terrestre avec la République dominicaine est bouclée. À Port-au-Prince, les gangs, qui contrôlent déjà 80% des quartiers de la capitale, ont encore étendu leur emprise ces derniers jours. S'alarme l'ONU qui évoque une situation extrêmement alarmante. Le quotidien des habitants est fait de barrages routiers, de coups de feu, de kidnappings, bref, une ambiance de terreur et d'anarchie. Port-au-Prince est également confronté à une grave crise humanitaire, notamment parce que le port fonctionne au ralenti du fait d'attaques régulières.
La campagne des européennes avec Raphaël Glucksmann à Tournefeuille cet après-midi près de Toulouse devant 2500 militants pour incarner l'alliance entre son parti Place Publique et un parti socialiste réconcilié pour l'occasion. Raphaël Glucksmann s'est présenté aujourd'hui en défenseur de la paix face à la guerre en Ukraine et au moment où Vladimir Poutine déstabilise l'Europe, les socialistes voient donc en Raphaël Glucksmann le vote utile à gauche. Victoria Koussa.
Sa ligne n'a pas bougé. Raphaël Glucksmann le rappelle, soutenir l'Ukraine, c'est protéger l'Europe.
Il se joue rien moins que la survie de nos démocraties et du projet européen.
Quitte à entamer le bras de fer avec le régime de Vladimir Poutine.
Quand vous entendez certains dire que parce que je prône la fermeté, je suis un bâtonnière, il faut leur répondre que la seule voie vers la paix, c'est précisément la fermeté. et que chaque capitulation, chaque recul, loin d'acheter la paix, rapproche la guerre de chez nous.
Et face au péril, ça liste. Quelque chose commence, d'après lui, allusion sans le nommer, à ce récent sondage qui le propulse à 13%, loin devant les autres listes de gauche. Il y a l'odeur, la saveur des débuts qui ressemblent à un printemps. L'eurodéputé termine, galvanisé, le poing levé.
Mes amis, nous allons être la grande et belle surprise du 9 juin 2024. Nous allons bouleverser l'échiquier politique. Tout dépend de nous.
Avec cet objectif des socialistes, passer dans les sondages devant la liste macroniste de Valérie Ayer qui les devance de quelques points.
Reportage de Victoria Koussa. Une nouvelle recrue au Rassemblement National à 2 mois et demi des élections européennes. L'essayiste Malika Sorel figurera en deuxième place sur la liste de Jordan Bardella. Malika Sorel était membre du Haut Conseil à l'intégration durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle a écrit plusieurs essais sur l'immigration et se dit désormais déçue des Républicains. D'où ce commentaire d'Éric Ciotti à la tête des Républicains. La vie politique, dit-il, n'est pas dénuée d'opportunisme. La fin du congrès du Modem, c'est à Blois, en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, favorable, elle l'a dit, à une dose de proportionnelle dans les élections législatives. Yaël Braun-Pivet est même prête à l'inscrire à l'agenda parlementaire. Ce dont se réjouit le patron réélu du Modem, François Bayrou, ravi de se voir ainsi relayé dans son combat.
En politique, on en est encore au stade des guerres de religion. Je pense qu'il est vital qu'on franchisse ce pas. Et c'est l'instauration de la proportionnelle pour la loi électorale. Parce que si vous avez ce pluralisme à l'Assemblée, et si vous avez une menace d'un extrême ou de l'autre, à ce moment-là, les autres ont le devoir de se mettre ensemble pour faire barrage. Je dis souvent, si vous êtes de gauche à Neuilly, à quoi votre voix va-t-elle servir ? Et si vous êtes de droite à Saint-Denis, et pendant si longtemps, si vous étiez du centre, à quoi votre voix servait-elle ? Alors, une fenêtre s'est ouverte. Et si jamais les responsables avaient du mal à être convaincus, il y a un moyen très simple pour les convaincre, donner la parole au peuple français.
François Bayrou, propos recueillis par Laurence Perron.
France Inter. Éric Delvaux.
Il est 18h08 à Dakar, 1 heure de plus à Paris. Les bureaux de vote viennent de fermer au Sénégal. Premier tour de l'élection présidentielle. Bonsoir Omar Ouamane.
Bonsoir Éric.
Vous êtes en direct de Dakar. Alors que ce soit Amadou Ba, le dauphin du président sortant, ou bien Bassirou Diomaye Faye, le candidat anti-système, ce soir, les deux favoris se disent convaincus de leur victoire au premier tour.
Oui, et c'est ce qui inquiète les observateurs ici au Sénégal qui craignent des tensions en cas de revendication prématurée de victoire des deux principaux favoris qui sont d'ailleurs représentés dans quasiment tous les bureaux de vote. Il y en a plus de 16 000. Ces représentants assistent actuellement au dépouillement, ce qui pourrait leur permettre de dégager des tendances lourdes dans les prochaines heures. Les Sénégalais retiennent donc leur souffle car l'issue est totalement incertaine et l'enjeu de taille. Les deux favoris, le candidat de la coalition au pouvoir et le candidat anti-système, ont des programmes politiques aux antipodes. Et en toile de fond, Éric, il y a la future manne gazière et pétrolière des gisements en mer au large des côtes sénégalaises dont l'exploitation doit démarrer dans les prochains mois. Ces hydrocarbures attisent les convoitises. Ils devraient permettre de renflouer les caisses de l'État, mais ils peuvent également s'avérer nuisibles si cette manne est mal gérée ou détournée.
Omar Ouamane en direct de Dakar avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui de la situation dans la bande de Gaza. Entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi qu'avec le roi Abdallah II de Jordanie. Entretien sur l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et sur la protection des populations civiles à Gaza. Le ministère russe de la Défense a envoyé aujourd'hui un avion de chasse MiG-31 pour intimider 2 bombardiers américains qui s'approchaient trop près de la frontière russe au-dessus de la mer de Barents. À la vue du MiG russe, les 2 bombardiers américains ont changé de cap pour s'éloigner donc de cette frontière. La Russie, donc très sourcilleuse quand il s'agit de ses frontières, mais moins regardante quand c'est elle qui viole l'espace aérien. La Pologne l'a encore appris à ses dépens ce matin quand un missile de croisière russe a une nouvelle nouvelle fois traversé le ciel de ce pays, membre de l'OTAN. L'aviation polonaise s'est immédiatement mise en alerte, comme les avions alliés d'ailleurs. La séquence n'a duré qu'une quarantaine de secondes, mais elle inquiète les Polonais qui redoutent aussi une hypothétique invasion russe. Pour le général Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, cette violation de l'espace polonais est apparemment une erreur non intentionnelle des Russes.
Il est plus dans le risque d'un dérapage d'un avion qui va un peu trop loin pour larguer son missile, des missiles qui sont souvent peu précis. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Polonais ont fait preuve de sang-froid, qui a une véritable surveillance permanente, on va dire, H24, 7 jours sur 7, de tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que les Russes prennent un vrai risque avec ce type de manœuvre. C'est suffisamment compliqué avec la guerre en Ukraine, désormais ouvertement assumée par Moscou, et puis ce qui s'est passé avec l'attentat donc à Moscou. Donc, ça fait beaucoup de front pour Vladimir Poutine en même temps, et s'engager dans une confrontation armée avec l'OTAN serait absolument catastrophique pour la Russie.
Arrêtons-nous à présent sur le surpoids des Français. C'est une préoccupation jusque dans les rangs de l'armée française. Les états-majors s'inquiètent de cette surcharge pondérale qui augmente chez les soldats, à l'image de l'ensemble de la société, Laurent Kramer.
Comment recruter des soldats alors que la société française penche du côté du surpoids? Nouvelle problématique pour l'armée française. Jusqu'ici visible aux États-Unis, la tendance au surpoids est une préoccupation pour l'état-major français. Impossible d'enrôler des militaires en surpoids alors qu'un Français sur deux est concerné, et plus inquiétant, près d'un Français sur six est en situation d'obésité, ce qui entraîne des problématiques de blocage au moment du recrutement. Le capitaine de corvette François Séché, responsable RH, fait le constat que le nombre de personnes en surpoids a augmenté depuis le confinement.
Dans nos centres de recrutement, on a une partie de la population de plus en plus importante qui est en surpoids, voire en obésité. Les critères, on ne peut pas les faire évoluer hein, parce que demain, on a besoin de marins, de combattants qui seront dans une bonne forme physique, qui doivent avoir une capacité de résistance, une capacité cardio. Et donc, on essaie d'accompagner. Il ne s'agit pas juste de faire de la gonflette ou travailler les pectoraux, mais bien de faire du sport pour être en bonne santé physique et mentale.
Constat de vigilance contre le surpoids que l'armée française prend également au sérieux pour ne pas creuser ensuite l'inaptitude sur le théâtre des opérations. Près de 20% des cas d'inaptitude pour les opérations extérieures sont désormais liés à une surcharge pondérale.
L'anniversaire commence à être célébré dans toute la France, les 150 ans du mouvement impressionniste. Nous partons au festival Normandie impressionniste jusqu'au 22 septembre. 150 événements sont répartis sur l'ensemble de la Normandie. C'est en 1874 donc qu'a eu lieu la première exposition des artistes qu'on appellera plus tard les impressionnistes, avec cette nouvelle manière de peindre à travers la lumière extérieure. Monet évidemment, Morisot, Basie, Sisley ou bien Camille Pissarro. L'impressionnisme, à l'époque le terme n'était pas flatteur quand un critique d'art a voulu commenter un tableau de Monet. Joachim Pissarro, l'arrière-petit-fils de Camille Pissarro, est aussi le président de ce festival Normandie impressionniste.
Au départ, c'est quasiment une insulte. Le terme impressionnisme n'existe pas. Celui qui porte le flambeau, c'est Monet, à travers ce tableau qu'il intitule de façon très très significatrice, l'impression Soleil Levant. C'est un tableau qu'il peint un beau matin dans le port du Havre. Donc c'est un tableau plein d'impressions un peu floues. C'est un très très beau tableau qui est pas si grand que ça, qu'on trouve aujourd'hui au musée Marmottan. Et donc le roi saisit ce titre et en fait une véritable boutade. Ce sont des gens qui créent des impressions, et bien appelons-les des impressionnistes. Oui, non, ils sont pleinement conscients du fait qu'ils rompent complètement avec les critères acceptés de l'époque. Ils sont tout à fait conscients qu'ils sont en train de créer l'histoire.
Les 150 ans de l'impressionnisme, donc 1874, je vous renvoie également au musée d'Orsay à Paris pour l'exposition Inventer l'impressionnisme. À partir de mardi, ce sera jusqu'au 14 juillet. Ça a commencé aujourd'hui, ça va durer jusqu'à mardi. Le printemps du cinéma, de retour dans les salles de France. Une place de cinéma vous coûtera 5 euros, quel que soit votre âge ou votre statut. On aurait tort de s'en priver. Sachez enfin que le journal La Provence ne paraîtra toujours pas demain, lundi, pour dénoncer la mise à pied de son directeur. Après une jugée ambiguë par la direction, les journalistes dénoncent aussi l'interventionnisme du nouveau propriétaire Rodolphe Saadé, qui vient également de racheter BFM et RMC. Le temps.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers, véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain, journée dans l'ensemble assez calme.
Oui, avec un soleil présent quasiment partout, mais qui va se voiler au fil des heures. On va surtout s'intéresser aux zones où il sera absent ce soleil. Sur la Bretagne, où une nouvelle perturbation arrivera dès le matin avec des pluies faibles mais fréquentes. Et plus au sud, ça sera en fin d'après-midi avec l'arrivée d'averses sur les Pyrénées, sur le Languedoc-Roussillon, puis sur les plaines du sud-ouest jusqu'en région PACA dans la soirée, avec là des averses soutenues sur le sud de l'Aquitaine et les Cévennes. D'ailleurs, la journée de mardi sera particulièrement pluvieuse partout, mais surtout sur les Cévennes où on surveillera un possible épisode méditerranéen avec de forts cumuls sur ce secteur. Donc, ça va se dégrader par l'ouest et le sud avec un vent qui sera de plus en plus fort déjà l'après-midi à l'approche de cette perturbation. On parle de rafales à plus de 90 km à l'heure.
Et demain matin, les températures baisseront encore un peu.
Oui, avec le ciel dégagé de la nuit, on aura même des petites gelées fréquentes de l'Île-de-France au nord-est, une moyenne de moins 2 à 3 degrés, 4 à 7 pour le reste du pays, jusqu'à 10 près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, la moyenne ira de 10 à 18 degrés du nord au sud jusqu'à 20 degrés sur le sud de l'Aquitaine.
Céline Dacosta. Avant de retrouver Charline Vanhoenacker, un dernier mot. Je vous parlais du mouvement social au journal La Provence pour dénoncer la mise à pied de son directeur après une jugée ambiguë par la direction. Et bien à l'instant, le chef de la direction du journal La Provence est réintégré. C'est ce qu'annonce la direction du journal. 19h16 sur Inter.